Je suis David Maenda Kitoko. Je suis président de l'association Génération Lumière. Génération Lumière existe depuis 2017. Nous existons en France et dans la région des Grands Lacs africains avec une priorité sur la RDC.
Il y a vraiment cette notion de double espace. Donc on veut travailler avec les diasporas africaines et congolaises. Et avec la France. Et du coup, il y a des missions différentes, mais c'est pour le même objectif, qui est de proposer à l'Union européenne et même au monde une transition écologique plus juste, qui respecte les droits humains et tout. Et là, donc, l'objectif de la marche, c'est donner une résolution au Parlement européen le 16 juillet à Strasbourg.
Donc, on a commencé notre marche le 22 juin, de manière officielle à partir de Besançon. Nous allons jusqu'à Strasbourg au Parlement européen. Nous serons reçus le 16 juillet par David Cormand et peut-être d'autres eurodéputés.
Donc je m'appelle Claire Lhermitte, je suis coordinatrice de cette campagne contre l'extractivisme et pour la paix en République démocratique du Congo portée par l'association Génération Lumière. La journée, on marche. Et le soir, on rencontre des acteurs sur différentes thématiques pour réfléchir sur comment se loger sans énergie et bien s'isoler, comment se reconnecter avec la nature et avoir une vision systémique du monde, comment repenser nos rapports de domination entre pays colonisateurs et pays colonisés et le lien qu'il y a avec l'extractivisme. Comment réfléchir sur le rôle des femmes avec l'écologie, avec des soirées écoféministes. Et aussi, on a des soirées où on dénonce plutôt les impacts sur la terre, sur les sociétés humaines qu'a l'extractivisme. En montrant des films, par exemple, hier soir, on avait un film présenté par la CIRAD sur les impacts de notre extraction de l'uranium au Niger et au Gabon et toutes les maladies que ça a créées, les pollutions que ça a créées. On va voir un film sur le viol des femmes comme arme de guerre, qui est une technique qui est très utilisée aussi pour obtenir des terres pour après y construire des mines. Voilà, donc c'est un mélange de réflexion sur comment on habite la terre autrement et aussi d'apprentissage de la réalité finalement liée à l'extractivisme.
Est-ce que tu peux décrire plus précisément ce que c'est l'extractivisme et comment ça se manifeste au Congo ?
L'extractivisme est un système colonial basé sur l'extraction des ressources dans des territoires colonisés. En tout cas, c'est un système empreint de colonialisme. Donc, il peut se manifester aussi dans des territoires où il n'y a pas eu de colonisation. Mais en tout cas, c'est un système qui va extraire massivement des ressources en vue de les mettre sur le marché international et qui construit un système autour de lui, qui installe un système de rapports de domination pour lui permettre d'exister. Donc, en fait, là, on vise pas l'artisan quand on parle de l'extractivisme. On vise Total, si je peux dire ça comme ça. On vise Umicore pour ceux qui sont en Belgique, on vise Apple, c'est ça l'extractivisme.
C'est quoi le minerai qui est exploité au Congo?
Le minerai, on en a beaucoup malheureusement. On a le coltan, on a le cobalt. Hey, attends, j'ai pas fini. 80% des réserves mondiales du coltan proviennent de la RDC. 50% des réserves mondiales de cobalt se trouvent en RDC, et la RDC est le premier producteur du cobalt mondial avec 62%. La RDC est le deuxième producteur de cuivre au monde. On a retrouvé du lithium en RDC, là, récemment, et c'est la plus grande réserve de lithium non exploitée au monde, aujourd'hui. Il y a l'or, il y a l'uranium. Enfin bref, on pourrait en citer jusqu'à demain.
Je m'appelle Abigail Matondo.
Je vis à Grenoble et je suis étudiante en droit. Je suis congolaise, angolaise aussi. Et je suis membre à Génération Lumière. Ça fait déjà 2 ans que je suis membre à Génération Lumière. Ce qui m'intéresse dans cette association, c'est l'approche de l'écologie qu'on a, qu'on ne va pas forcément retrouver dans les autres associations qui se disent écologiques. On ne va pas forcément retrouver la dimension décoloniale. On ne va pas forcément retrouver le côté du bilan humanitaire aussi. Et voilà, c'est un peu ce que j'apprécie à Génération Lumière, c'est vraiment l'approche qu'on a de l'écologie. Comment j'ai contribué à cette marche ? Moi, je travaille dans la communication. Alors, je ne suis pas seule. Il y a Dorélia, il y a Eleanor aussi qui est sur Paris et il y a aussi les stagiaires qui nous ont beaucoup soutenus. On a pu contacter les médias, les collectifs. On a pu préparer les visuels pour les réseaux sociaux, refaire le site internet et plein d'autres choses encore. Je marche aussi, c'est vrai que je ne peux pas marcher, je ne peux pas être là pendant toute la marche parce que je travaille, mais je suis là les week-ends, je participe.
Je m'appelle Dominique et je suis Rouennais. Je suis dans une équipe du diocèse de Lyon, voilà. Dans le diocèse de Lyon, on a 2 équipes diocésaines, une à Lyon et une à Rouen, voilà. Pour moi, je participe à la marche parce que je viens du CCLD Terres Solidaires qui soutient cette marche. Parce que on a le CCFD Terres Solidaires a des partenaires dans le du monde entier et entre autres au Congo. Et donc cette marche elle correspond tout à fait au plaidoyer que le CCFD fait et promeut voilà. Donc j'ai connu cette marche comme cela. Et puis j'adore marcher, donc voilà, c'est des actions qui me plaisent bien. On joint le plaisir et la détermination. On montre notre détermination parce que quand même voyager comme ça pendant 15 jours, 3 semaines pour le commun des mortels, on va dire, hein, ben ça fait un engagement quand même. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière cet engagement ? Il y a quand même une certaine volonté de vouloir changer les choses. Et donc, une détermination qui peut donner une détermination qui se montre, qui est visible.
Bah, la marche, en général, c'est très symbolique. C'est quand on veut faire passer un message dans la paix.
Ouais, du coup, la marche, c'est vraiment un outil politique qu'on utilise, une forme de
revendication,
de revendication non violente, qui nous permet aussi de reprendre le temps, de nous réapproprier l'espace, le temps, et de rencontrer beaucoup d'acteurs dans les villes et les villages qui nous accueillent.
Sur notre route, nous avions voulu croiser des initiatives qui appellent à une autre manière d'habiter la Terre, en tout cas, comme c'est ce que nous appelons dans notre marche. Nous voulions, dans une certaine mesure, montrer que cet autre monde est possible et il est déjà concret, il est déjà là. Là où vous m'intervivez, c'est un terrain qui a été récupéré pour produire de la nourriture à Erlesheim par un couple d'artistes qui ont décidé de revenir à la terre, mais de continuer à faire de la culture tout en produisant aussi, en faisant de l'agriculture. Avant-hier, nous étions à Ungersheim, où là, on a des décisions politiques, des politiques publiques, qui vont dans le sens de la participation citoyenne, de la démocratie participative. Bon, ils ont des projets, parfois, qui peuvent être technicistes sur la transition écologique, mais on voit quand même que la base, le fondement, c'est la consultation, c'est discuter avec le peuple. Avant ça, on a été au Moulin Nature, à Lutterbach, où on a vu les possibles. On avait accueilli Célia Isoar, qui vient de sortir un livre sur la rivière minière au XXIe siècle. On a discuté avec les anciens mineurs du potasse, qui nous ont parlé des déchets de l'extractivisme dans leur région et des risques qu'ils encourent aujourd'hui malgré le fait qu'ils soient à la retraite. Nous avons eu Jonathan Lobos, qui est un comédien qui retrace dans son spectacle 300 ans de l'extractivisme.
Le 9 juillet, on va à Célestat et on fait une soirée sur le rapport entre les femmes et l'écologie. Et du coup, on va faire des ateliers de discussion sur ça, et on va présenter toutes les formes d'écoféminisme qu'il y a dans le monde, parce qu'il y a des points de vue très différents et très intéressants. Le 10 juillet, on a toute une journée sur l'extractivisme, à Célestat encore, au foyer Notre-Dame. Et le soir, à 20h, on a une discussion sur le rapport entre le colonialisme et l'extractivisme, avec le point de vue du Tibet, où il y a beaucoup de mines, le point de vue de la République démocratique du Congo, mais aussi de l'Alsace, qui est pour nous aussi une forme de colonialisme quand les habitants, les locaux, ne sont pas d'accord avec les projets de mines. Le 12 juillet au soir, on a rendez-vous avec les éco-citoyens Bierstein et d'autres luttes locales. Et on va projeter le film Petit Caillou. C'est un reportage sur des habitants qui ont lutté contre un projet de carrière et qui ont gagné. Et on va parler de la vigilance citoyenne. C'est très important de parler de ce sujet parce que même s'il y a des lois environnementales sur Terre et des lois de droits de l'homme, déjà on les perd de plus en plus. Donc il faut une vigilance citoyenne, une puissance citoyenne pour garder ces lois environnementales. Mais en plus, elles sont souvent pas respectées. Les luttes anti-mines en France le disent très clairement et partout dans le monde. Elles sont obligées de lutter pour que les lois soient respectées. Et donc, c'est très important pour nous d'avoir aussi une soirée sur la vigilance citoyenne, sur comment organiser les habitants pour qu'ils protègent par eux-mêmes leur environnement et qu'ils luttent contre des projets de destruction de leur environnement, dont les projets de mines ou de carrières. Donc ça va être le sujet de cette soirée. Et après, le 14 juillet, on est accueilli par le Wagon Souk, qui organise un événement, une journée d'événements sur la décolonialité. Donc il y aura des interventions plutôt théoriques sur notre rapport avec la colonialité et la colonisation. Et nous, on va témoigner de notre marche, qui est plutôt l'aspect pratique de comment on s'est décolonisé tout au long de cette marche, qu'on s'est déconstruit et qu'on a repensé notre rapport avec la terre, notre façon d'habiter la terre. Et le soir, on a un bal des diasporas qui est un peu une balance avec les bals du 14 juillet qui est très nationaliste. Ensuite, le 15 juillet, on se regroupe tous pour construire des œuvres d'art, des sculptures avec des déchets et des récups pour construire la manifestation du 16 juillet. Et le soir, au 15 juillet, on a un rendez-vous à l'esplanade de la gare à 16h pour faire une nuit debout sur comment habiter la terre autrement, avec la présence d'eurodéputés qui vont nous écouter. Donc il y aura des interventions de plein d'associations, de citoyens. Enfin, c'est vraiment très ouvert sur le format de Nuit Debout. Et ça sera entrecoupé d'interventions artistiques de diaspora de Strasbourg et d'ailleurs pour un côté interculturel. Et le 16 juillet à midi, on va faire une marche très bruyante, je l'espère, à Strasbourg, de l'esplanade de la gare au Parlement européen. Parce que c'est la journée de la rentrée parlementaire. Et ensuite, on sera accueillis au Parlement européen par des eurodéputés pour déposer notre projet de résolution parlementaire Et voilà, on aura fini la marche.
Comment ces rencontres, elles enrichissent la marche? J'en profite pour te demander quel est le contenu de cette résolution.
Nous avons voulu être dans une posture d'humilité face aux rencontres que nous avons à faire. Donc, elles nous enrichissent du fait que nous ne pouvons pas tout savoir. Et la complexité du monde est face à nous. Quand on a un maire qui veut bien changer les choses, mais à qui on n'a présenté que des solutions technicistes, il faut acheter des panneaux solaires pour que ton village soit vert. Lui, il essaie juste de lutter contre le dérèglement climatique et essaie de proposer les meilleurs services publics possibles à sa population et qu'on lui a présenté ça comme solution et que du coup, se retrouve en face de nous où on lui parle de la menace que représente cette transition écologique pensée sur des minerais. Eh bien là, on voit bien que ça demande une posture d'humilité face à quelqu'un qui, lui, ne savait pas. Enfin, en tout cas, qui n'était pas dans une démarche de vouloir faire du mal, mais qui était en train de chercher la solution. Donc, ça enrichit notre regard, notamment sur ce que se trouve dans la résolution, puisque c'est ça ta question. C'est que dans notre résolution, nous portons un certain nombre de revendications. Je crois que la plus suprême est celle de dire que nous réclamons la fin des relations politiques et commerciales empreintes de colonialisme. Ça suppose que, par exemple, ce qu'ils appellent à l'Union européenne la souveraineté ouverte pour l'acheminement des minerais, ça suppose l'arrêt de ces accords qu'ils ont signé avec différents États, notamment États africains, dont le Rwanda, qui est accusé à maintes reprises de financer des bandes armées pour extraire des ressources et les acheminer vers le Rwanda, et les Rwandais qui les acheminent vers, qui les propagent, qui les amènent vers la Chine, et la Chine propage dans le monde. Eh bien, nous refusons ce genre de relations qui font souffrir les peuples et maintenir des régimes autoritaires au profit d'une bulle décarbonée en Europe. Nous amenons également quelque chose qui serait plutôt rassembleur. Parce que nous appelons à une création d'une nouvelle loi, d'un nouveau droit pour les citoyens européens, qui serait les droits à réparer. Cela suppose que chacun, chacune pourrait réparer son appareil. Donc ça suppose que le fabricant doit d'emblée prévoir la réparabilité. Enfin, là où je vais en venir, c'est que ceci aura pour effet l'allongement des durées de vie des appareils, ce qui a en effet d'abord sur la société ici, puisque si vous pouvez réparer, vous n'êtes plus obligé d'aller vers un réparateur choisi par le fabricant. Ça veut dire qu'il peut y avoir des ateliers citoyens des réparations qui permettent une discussion, encore là aussi, briser l'isolement, créer des liens et démocratiser les enjeux de partage d'outils et donc des ressources. Et par conséquent, là où proviennent les ressources, on sentira peut-être moins de pression de cette demande. Moins de pression de cette demande suppose moins de financement des bandes armées, moins de corruption et moins de corrupteurs qui viennent d'ici. On a des corrompus, mais on a des corrupteurs ici. Bref, on crée une espèce de cercle vertueux que tout est quelque chose, un monde un peu plus apaisé à travers une mesure aussi simple que le droit à réparer. Nous appelons à revoir, voire à mettre des moratoires sur des lois qui ont été votées sur la mobilité, sur le numérique, sur l'énergie et que sais-je d'autre, qui, le fondement, est l'ivresse des minerais. l'ivresse des minerais, et notamment ceux qui viennent de la RDC, une région qui est en conflit, en guerre, dans laquelle on vit des génocides en génocide, des écocides en écocide. Nous perdons chaque année plus de 500 000 hectares. On compte pas moins de 6 millions de morts dans ce territoire. En moins de 20 ans, on compte pas moins de 6 millions de morts. Et tout ça lié à l'accès aux ressources. Donc à un moment donné, il faut s'interroger sur cette ivresse, sur cet appétit des métaux des pays riches qui génèrent autant de destruction du vivant et l'humain inclus. C'est pour ça que les lois votées au nom du peuple européen sont questionnables. Et cette marche s'inscrit dans cela parce qu'on passe dans différentes communes, je crois que c'est 17 communes, des grandes villes, des petites moyennes villes, où on traverse, à l'est de la France, en expliquant à la population, en expliquant aux associations qu'on rencontre ce qui s'est fait en leur nom. Alors, parfois les gens nous demandent, mais vous avez quoi comme solution ? Nous leur avons dit comme solution les droits à réparer, mais nous leur disons aussi qu'il faut prévoir, il faut politiser les renoncements. Autrement dit, dans nos revendications, nous appelons aux multinationales, aux entreprises européennes, de renoncer à la fabrication des outils, des produits qui seraient destructeurs de l'environnement et du vivant, que ce soit en Europe ou ailleurs dans le monde. Parce que l'extraction n'est pas neutre au niveau environnemental et dans la majeure des cas aujourd'hui, que ce soit en Afrique ou ailleurs dans le monde, n'est pas respectueuse des droits humains. Donc, une bulle décarbonée ne pourra pas durer aussi longtemps qu'ailleurs on tue de manière industrialisée. Cette bulle, à un moment donné, elle éclatera face à cette autre réalité du monde. Et donc, ça suppose que nous devons repenser notre manière d'habiter la Terre. Et c'est ça le fond de notre discours. Repensons notre manière d'habiter la Terre. Quelle est cette transition écologique qui nécessite autant de destruction? Quel est cet habité dont on appelle à... Quel est ce monde à advenir qu'on appelle de tous nos voeux, mais qui est fondé sur le même monde, le monde ancien, si tu veux. Donc voilà, nous refusons cela. Et en tant qu'un Congolais, il était plus qu'urgent de le faire, d'agir là où provient la colonialité. Parce que beaucoup peuvent nous demander, mais pourquoi vous n'allez pas agir chez vous? Mais la colonialité provient d'ici, de ces territoires-là, à travers les demandes énormissimes de ces ressources, à travers la corruption qu'ils soumettent à nos gouvernants, que je mets dans le même sac, bien sûr. Donc il faut combattre aussi là où elle provient, cette colonialité. Voilà, je suis dans une posture de combat et d'humilité.